Il est 19h sur campus, tout de suite c'est l'heure du sous-marin.
Allez, allez, on se dépêche, allez!
Vie étudiante et associative.
C'est la grande voile!
Politique, société.
Mais y'a pas de voile, abruti!
Culture.
Immersion dans 10 secondes!
Et même du sport.
Tout le monde est à son poste?
Du lundi au jeudi, 19h-20h, le sous-marin, la quasi-quotidienne d'info de Radio Campus Angers.
Bonsoir à tous, vous êtes bien à bord du sous-marin, nous sommes ensemble pendant une heure pour faire fonctionner nos sonars et nos ménages. Et oui, autour de moi, ce soir, nous avons Joannick, nous avons Antoine qui nous fera son cabinet des curiosités. Bonsoir Antoine. Et nous allons également vous diffuser une interview d'Adeline Amar, de Famille Rurale des Fédérations des Pays de la Loire, d'Annie Delalande, de l'association Soins Santé 49, et de Rachida Ouattara. On vous expliquera tout à l'heure pourquoi. Pour résumer, eh bien, un débat formation autour de la médiation interculturelle. Mais tout de suite, comme d'habitude, on commence par un reportage. Reportage de notre envoyé spécial à la COP21 qui participe activement aux émissions de Campus France.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Et notre Tintin à nous, Thibaut, s'est intéressé à Alternatiba qui était présent à Paris pour la COP21.
Le village mondial des alternatives, plus connu sous le nom d'Alternatiba, était à Montreuil ce week-end. À l'issue de deux jours de conférences, de festivités et de mobilisations, simple citoyenne ou membre d'association, quel bilan elle tirait de l'événement?
Alternatiba, c'était cool, c'était franchement bien sympathique de voir tous ces gens réunis avec un peu les mêmes idées et qui essayent de les communiquer au monde dans la beauté, la joie et la bonne humeur.
Et ce que moi j'ai vraiment aimé, c'est les confs, l'idée qu'on puisse aller un peu plus loin avec des débats, des ateliers ou juste des conférences. Ça c'était vraiment cool, un super complément où moi j'ai pu prendre le temps en fait d'aller plus loin sur les sujets qui m'intéressaient, que je connaissais juste un tout petit peu.
Moi honnêtement, j'étais plus venu à cet événement pour distribuer des tracts sur la Z de Notre-Dame-des-Landes pour essayer d'avoir des discussions intéressantes avec les gens, pour les informer. Et ouais, les gens étaient vraiment très réceptifs, j'ai eu des discussions très intéressantes.
Le seul truc, c'est qu'on voit toujours un petit peu les mêmes têtes, donc peut-être toujours cette question de comment essayer de toucher le vrai grand public au sens large.
Le bilan pour nous, c'est positif. On était là pour contre un projet de centre commercial qu'on a dans le Val-d'Oise, toujours beaucoup de contacts. C'est un public comme on le recherche.
On a reçu un bon accueil des gens qui sont passés, on a eu beaucoup de monde, les animations qu'on avait proposées ont eu du succès et beaucoup d'échanges. Et c'est vrai que ça rebooste de voir tant de succès et tant de gens qui s'intéressent à ça.
Voir que ça a fourmillé un peu partout et qu'on n'était pas seulement un îlot, ça fait montrer qu'on est vraiment dans une dynamique. Enfin moi, en tous les cas, ça fait prendre conscience de la dynamique global qui existait, donc globalement je suis très 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 content.
C'est une bonne initiative qui permet de conjuguer beaucoup de secteurs différents, que ce soit bon, la question homme-femme, la question des aliments, des producteurs, et tout ça ensemble permet de se conjuguer et de proposer une alternative.
On remercie évidemment Thibaut qui était à la COP21 pour réaliser ce reportage en direct, ou presque, de Paris. Antoine, Alternatiba, la COP21, ça te parle comme sujet?
Ça me parle relativement, effectivement, déjà par rapport à Radio Campus, mais aussi par rapport au changement climatique qui s'annonce, aussi bien que des forces un petit peu alternatives montrent un peu ce qu'elles savent faire aussi, leur expérience et leurs compétences. Même si on le sait, avec les événements qu'il y a eu le mois dernier, c'est assez compliqué pour elles de faire entendre leur voix. Quand on est en état d'urgence, c'est très compliqué pour une association alternative de se faire entendre et d'arriver à communiquer sur ça. On l'a vu d'ailleurs avec l'interruption et l'interdiction des marches, des choses comme ça. Donc c'est bien aussi qu'elles arrivent à se faire connaître et à donner une nouvelle voix à de nouvelles routes.
Joannick, voilà. Toi, ça te parle justement, Alternatiba, toutes ces, on va dire, ces alternatives à la COP21, au mouvement très officiel, institutionnel?
Eh ben non, j'en savais pas plus, mais du coup, c'est pour ça que j'écoute le sous-marin, parce que du coup, voilà, on en apprend plein. tout le temps.
Corporatisme absolu, c'est bien.
C'est bien. Écoutez, écoutez le sous-marin, faites comme Joannick, apprenez plein de choses sur la COP21. Le sous-marin qui revient juste après une chanson intitulée Kifan Batnadem de Sofiane Saïdi.
نحكي لك حكاية إنسان مين يتفكر الدنيا اللي عايش فيها ولحياته واليوم نهاره هنا حكايته تكمل يلقى مولاه كيفاش يولي بنادمه يولي بنادم ديما نادم كيفاش حياته تفوت يسنى في الموت يطلب الإله ويتفكر باب وما ينساش حب يتفكر هديك اللي بغاوته من كان صغير عجبته حياته يا زمان يا زمان رضي حبابي I'm
Vous êtes toujours dans le sous-marin sur campus et tout de suite nous allons vous diffuser une interview d'Adeline Amar, de Annie Delalande et de Rachida Ouattara. Excusez-moi Rachida Ouattara, j'ai écorché votre nom, j'en suis vraiment désolé. Bref, toutes les trois étaient présentes pour un débat formation autour de la médiation interculturelle, un débat qui se passe en ce moment même à la maison de quartier de Lac de Maine. Vous pouvez toujours y aller, ça dure à peu près jusqu'à 22h. On écoute tout de suite les trois dames. Nous sommes à la maison de quartier de Lac de Maine en compagnie d'Adeline Amar, de Famille Rurale, la Fédération des Pays de la Loire, d'Annie Delalande, de l'association Soins Santé 49 et de Rachida Ouattara, de l'association Aptira. Ce soir, le mouvement associatif des Pays de la Loire organise un débat formation autour de l'importance de la médiation interculturelle dans le monde associatif. Alors, la médiation interculturelle, pour résumer, hein, dans mes mots, c'est le fait de se faire rencontrer des personnes venant de milieux sociaux et culturels différents pour parvenir à ce qu'on appelle aujourd'hui le vivre ensemble. Adeline Amar, Annie Delalande et Rachida Ouattara, c'est à peu près bien résumé.
Absolument. Absolument, ce qui concerne la Aptira, c'est tout à fait ça.
Rien à rajouter, ça m'étonne d'avoir si bien résumé la situation d'un coup.
C'est effectivement la rencontre des autres, des uns et des autres, pour mieux apprendre à se connaître et effectivement pour permettre ce vivre ensemble.
Alors Adeline Amar, vous êtes chargée de mission vie associative coopération européenne à la Fédération des Pays de la Loire, Famille Rurale. Concrètement, la médiation interculturelle, elle s'articule comment dans votre structure ?
Alors nous, à la Fédération régionale, c'est un peu particulier parce qu'on a une action forte Europe qui existe déjà depuis un certain nombre d'années. Et l'idée, enfin, ce qui est important de préciser, c'est que c'est un projet politique. C'est porté par la structure, ce sont nos responsables associatifs qui se sont dit il y a quelques années, ce serait intéressant et important d'ouvrir nos actions famille rurale à l'Europe. Voilà, donner une dimension européenne à nos actions de famille rurale.
Alors, vous le faites notamment à travers le volontariat européen, qui est forcément axé sur les jeunes, c'est ça ?
Exactement, et donc on est accrédité pour être structure d'accueil et d'envoi de jeunes volontaires en service volontaire européen.
Comment vous les sélectionnez, ces jeunes, s'il y a une sélection ? Comment eux postulent ? Comment ça se passe ?
Alors la sélection, elle est assez simple. Hein. Notre organisme est présent sur une base de données, où le jeune va repérer notre projet et va nous envoyer une lettre de motivation, un CV. Après, nous, à la lecture de leur motivation à venir, on s'entretient par Skype pour mieux se connaître. Et puis, on regarde avec eux, on essaye de comprendre un peu les intérêts qu'ils ont pour l'associatif, qu'ils ont pour le milieu rural. Enfin, essayons de trouver des intérêts communs. Voilà. Et puis, autour de l'animation également. Voilà à peu près comment on les sélectionne.
De manière générale, ils sont déjà sensibilisés à ces sujets ou c'est à vous aussi de faire un travail dessus ? Ça fait peut-être partie du processus de sélection finalement ?
Pour les jeunes qu'on accueille, effectivement, je pense qu'ils sont déjà sensibilisés pour faire la démarche de partir en volontariat européen. Après, nous en France, on fait aussi des temps d'information auprès de tous les jeunes, donc de 17-30 ans, voilà, des temps de réunion tous les mois et puis aussi des interventions un peu plus délocalisées dans tous les espaces où on peut trouver des jeunes.
Leurs tâches concrètement, une fois qu'ils sont insérés dans le processus ?
Alors c'est du volontariat, on est bien sur des actions de volontariat. À Famille Rurale, par exemple, ils ont deux missions fortes. Une mission où ils vont être sur le terrain, directement dans nos associations locales, où ils vont proposer des actions autour de la découverte européenne, de parler de leur pays également, de sensibiliser tous les acteurs de Famille Rurale à l'ouverture européenne, à la dimension européenne, à la mobilité européenne également.
Alors, malheureusement, on n'a pas de jeunes pour témoigner de leur expérience autour de nous, mais vous avez peut-être des retours d'expérience où peut-être que ces jeunes-là vous expliquent derrière comment eux l'ont ressenti. Généralement, c'est quoi les résultats, les retours qu'ils vous donnent ?
Alors effectivement, nous, dans notre action d'accompagnement, c'est pas seulement l'avant, mais c'est l'avant, pendant et l'après, l'accompagnement à leur retour aussi en France. Quand on part, on dit partir pour mieux se construire. L'idée, c'est qu'à leur retour, on fasse un temps ensemble. Et ce qui ressort, effectivement, c'est beaucoup de richesses, des rencontres humaines fortes et puis des apprentissages autour de l'autonomie, de l'adaptation, des missions qui sont, en tout cas des apprentissages et des compétences qui sont fortes pour le jeune. Ouais.
Finalement, c'est vraiment l'adage, les voyages forment la jeunesse, c'est un peu ça ?
C'est exactement ça, oui. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce que le voyage forme la jeunesse, et quand ils reviennent en France, eh bien, ils repartent très vite dans d'autres dispositifs ou dans d'autres voyages.
Oui, souvent, ils ne restent pas en France, s'insérer dans le milieu associatif, quel qu'il soit, et ils ont tendance à vouloir repartir directement.
Ouais, beaucoup d'entre eux repartent. Souvent, ceux qui partent, ils sont dans des temps un peu passerelles, après les études, avant de rentrer dans le marché du travail. Donc, ils ont besoin un peu d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs pour après rentrer dans le marché du travail en France. Mais oui, ils repartent très souvent sur d'autres dispositifs.
Alors, Annie Delalande, vous êtes présidente de Soins Santé 49, directrice, excusez-moi, on va peut-être pas mettre la charrue avant les bœufs quand même. Concrètement, dans votre structure, alors la médiation interculturelle, ça se passe comment? Ça s'articule comment?
Alors en fait, nous, les infirmières, sont sur les quartiers de la ville, d'Angers en particulier, et donc côtoient un public varié. Et elles ont eu besoin, en fait, de travailler ces différences culturelles, les représentations en fonction du milieu social, de cultures différentes, etc. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à l'APTIRA, qui est plus spécialisée, et qui vient former ou informer, sensibiliser les infirmières à la différence culturelle et aux représentations que l'on peut avoir.
Alors justement, je vais me tourner vers Madame Ouattara. Comment ça se passe? Quel type justement de formation vous donnez, de conseils? Comment ça se passe exactement à l'APTIRA?
Alors, l'APTIRA, déjà, est une association dont l'objet est l'aide à l'intégration. Quand on dit intégration, c'est donner des clés sur les codes sociaux et culturels du pays d'accueil à toute personne venue de l'étranger pour vivre en France. Donc, nous, tout notre travail, quelle que soit l'action qu'on mène, est une action interculturelle. Donc, nous recevons beaucoup de personnes. Dans une année, on peut recevoir des personnes qui viennent de près de 50 nationalités. Et à l'intérieur de ces nationalités, il y a des milieux sociaux. Donc on ne va pas accueillir un berger du fin fond de la Corne de l'Afrique comme on recevrait un Kosovar, comme on l'a fait en 98, ou plus récemment un Syrien, médecin d'Alep. Donc ces éléments-là nous ont amenés à travailler l'interculturalité, non pas comme un moyen de dialoguer entre deux cultures, mais aussi entre milieux sociaux. Et c'est très important. On peut avoir plus de différences avec quelqu'un de son propre pays, mais qui n'est pas du milieu social, qu'avec quelqu'un qui est d'un autre pays, mais dont on partage les codes sociaux et puis la classe sociale, si je puis me permettre. Je suis sociologue de formation, donc vous avez vu, je vous ai parlé de classe. C'est un mot qu'on n'utilise plus parce que c'est un mot marxisant. Or, la classe sociale, ce n'est pas parce qu'on n'utilise plus ce concept que la réalité n'existe pas. Elle est peut-être plus complexe quand Marx a écrit son fameux livre, mais elle est quand même là. Et c'est autour de tout cela que nous travaillons et nous sensibilisons nos partenaires. Parce que nous avons aussi eu à travailler sur les questions de discrimination. Les discriminations réelles ou ressenties reposent aussi sur cette non-connaissance ou absence de langage en commun et de code en commun. Donc on a eu à développer tout un travail autour de cela.
Et alors, concrètement, le travail, il s'organise comment? Qu'est-ce que vous faites? J'imagine qu'il doit y avoir des temps où vous réunissez. Peut-être que ça se passe par petits groupes. Je ne sais pas. Dites-nous en un tout petit peu plus.
Alors déjà, c'est une sensibilisation de tous nos intervenants à ces questions-là. Donc, il y a une formation à l'interne et un encouragement à s'informer sur les cultures et les fonctionnements des autres pays. Ça, c'est pour les intervenants. Les outils. Tout outil est important. Lorsque, par exemple, nous sommes en pleine période de Noël, c'est expliquer aux personnes qui ne sont pas forcément de confession chrétienne ce qu'est Noël. Lorsque une fête musulmane arrive, on explique aux chrétiens ce qu'est une fête musulmane. Et nous armons tous nos intervenants sur ces outils-là pour pouvoir travailler le vivre ensemble. Parce que nous avons, en matière de religion, en tous les cas, nous avons affaire aux trois religions du livre, et qu'elles ont un soubassement commun. Et ce soubassement est important à travailler, à exprimer, à explorer pour trouver ce qui nous lie, non pas seulement ce qui nous différencie. Donc ça, ce sont un premier élément. Je vous disais tout à l'heure que nous accueillons 50 nationalités, donc même si nous sommes une petite association, nous sommes amenés à faire, nous intéresser un peu à la géopolitique. Donc tout article sur la situation internationale nous intéresse. Toute émission sur l'international nous intéresse, même à notre petite échelle d'association purement angevine, puisque nous ne sommes pas liés à une fédération. Nous avons ce travail de veille, je dirais, sur l'information, sur ce qui se passe dans le monde, pour pouvoir un petit peu anticiper les choses avec nos apprenants, avec nos intervenants et avec aussi nos partenaires qui nous sollicitent souvent pour nous dire, ben voilà, nous recevons tel ou tel public, nous avons telle ou telle difficulté, comment nous pouvons travailler ensemble. Alors, nous ne venons pas Superman avec des clés en main, nous sommes là juste pour ouvrir, sensibiliser les gens, les professionnels, à apprendre à se décentrer pour mieux comprendre l'autre, pour se comprendre aussi soi-même. Parce que quand on pose des questions sur la culture de l'autre, on veut des réponses, mais on n'est pas forcément outillé pour expliquer sa propre culture. Et c'est dans ce travail de miroir et de regard de l'autre que nous situons.
Et alors, les résultats.
Très modestement.
Les résultats, ils sont perceptibles? Vous avez des retours d'expérience comment...
Alors, le retour d'expérience, c'est déjà que les partenaires nous sollicitent pour former d'autres équipes. Comme je vous disais tout à l'heure, nous y allons très modestement, nous y allons avec notre expérience. Nous ne venons pas auprès des partenaires avec des outils formatés. Nous travaillons à chaque fois l'intervention avec nos partenaires, donc avec Soins Santé, avec la Mutuelle de l'Anjou, avec les animateurs des maisons de quartier et tous ceux qui nous interpellent. C'est-à-dire que nous prenons en compte leurs questions, nous bâtissons une intervention et nous laissons la place aux questions parce que c'est à partir des questions que les choses avancent. En impliquant les salariés qui sont au contact ou les personnes qui sont au contact des difficultés en question, mais aussi en impliquant leur hiérarchie. Parce que cette capacité à se décentrer, ça n'est pas que le salarié qui est en face de la difficulté, c'est aussi sa hiérarchie, son environnement, etc. etc. Des cercles concentriques. On essaie d'insuffler une réflexion dans des cercles concentriques.
Donc en fait, c'est un investissement à très très long terme, c'est presque l'investissement de toute une vie en fait.
C'est permanent, parce que connaître l'autre, c'est se connaître. On ne se connaît pas en un jour, ni une heure, ni sur un an, ni avec un master. C'est tout le temps. Il faut toujours apprendre à se décentrer. Quand il y a une question qui se pose chez l'autre, se dire, mais comment elle m'interpelle, moi? Et c'est dans ce questionnement qu'on arrive à cheminer ensemble.
Et puis, c'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail de tous les jours, finalement, dès qu'on se balade, n'importe qui, dans la rue, à n'importe quel moment, presque.
Mais oui, Madame disait tout à l'heure qu'il travaille au sein par rapport à l'Europe. On ne peut pas être aujourd'hui avec des outils tels que les iPhones, Internet, etc. et se penser à l'intérieur de frontières. Donc si on se pense à l'intérieur de frontières, on ne peut pas avancer même à l'intérieur des frontières. Je vous disais tout à l'heure, il y a des classes sociales. Qu'on l'accepte ou pas, que ce soit un langage marxisant ou pas, qu'on l'admette ou qu'on ne l'admette pas, il n'empêche qu'on parle de classe sociale. On parle toujours de classe moyenne. Économiquement, mais continuer de penser classe sociale en termes d'analyse sociologique, on est un petit peu gêné aux entournures. On utilise le mot classe, on ne l'utilise pas. Le concept, il est opérant ou il n'est pas opérant. Donc pour nous, on ne peut pas aujourd'hui se concevoir qu'on puisse s'enfermer au sein d'une frontière. On circule, les jeunes sont appelés à circuler, vous êtes tous des jeunes, donc vous circulez, vous utilisez Internet, etc. Donc on ne comprend pas qu'on puisse empêcher les gens ou faire de sorte qu'ils soient à l'intérieur de frontières alors que tout les amène à passer ces frontières-là.
On se retrouve juste après Pink Floyd et le titre Butterfly. Évidemment, nous serons toujours en compagnie de mesdames Amar, Delalande et Ouattara.
Listen, all you girlies, even though I haven't met you, gonna catch you soon in my butterfly net. You better watch out.
sometime when I watch you, I stretch out my hand to touch you, cause it drives me wild to see you flutter by, you butterfly.
Nous sommes toujours en compagnie de mesdames Amar Ouattara et ça y est, j'ai perdu votre nom, madame de la Lande, excusez-moi. La question qu'on se posait, c'est pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on a besoin aujourd'hui de médiation interculturelle pour vivre ensemble? Je ne sais pas qui veut répondre, si quelqu'un veut y aller. Ah, je vais me tourner vers madame Ouattara.
Il n'y a que moi qui parle. Comment vous dire ? On a besoin de médiation interculturelle parce que je pense que on est, l'autre nous interroge toujours dans sa façon de faire. Et on pense que les techniques que nous avons, les outils que nous avons, sont des clés qui vont forcément ouvrir toutes les portes. On oublie que c'est d'abord l'humain, avec ses appartenances, ses croyances ou pas, tous ces éléments-là, et qu'on le rencontre, on a ça en nous, et l'autre vient aussi avec tous ces éléments-là. Donc ces rencontres ne se font pas... Elles ne sont pas toujours simples, elles sont complexes. Elles ne sont pas compliquées, elles sont complexes. Or, dans nos formations, on apprend à simplifier les choses. Ça ne nous aide pas dans le monde du travail. Il faut apprendre à penser complexe et à penser global.
Madame Amar, vous voyez hocher la tête, vous acquiescez complètement?
Oui, complètement. C'est sûr que ce que vous dites, madame, enfin, on se reconnaît bien dans ce qu'on mène, nous, comme action, alors, notamment sur les actions de formation. Enfin, c'est, nous, la première chose qu'on a mis en place, c'est... Au-delà de notre action coopération européenne, on a aussi on est organisme de formation sur les professionnels de l'animation. L'idée était aussi pour eux, parce que c'est aussi les premières personnes concernées, de les former sur comment s'ouvrir à l'international, comment parler voilà, d'Europe. Et du coup, on fait des semaines un peu thématiques sur monter des projets européens, parler d'interculturalité, etc. Voilà. Je pense que la formation, c'est aussi important pour les bénévoles, mais aussi pour les professionnels.
Finalement, ce sont, de ce que je comprends en vous écoutant, ce sont presque nos différences qui, entre guillemets, font peur aux autres ou qui font qu'on a peur de l'autre. Je ne sais pas qui veut y aller, Madame de la Lande.
Je ne sais pas si on a peur des autres. On est sur des groupes d'infirmières qui vont à domicile, donc elles n'ont pas peur des autres puisqu'elles rentrent même dans leur intimité, donc il ne faut pas avoir peur de l'autre. Mais effectivement, l'autre est des fois très différent et c'est le choc, en fait, surtout en rentrant à domicile chez une autre personne, il peut y avoir des chocs et c'est comment ne pas interpréter justement trop rapidement ce choc-là, c'est laisser venir et puis prendre son temps aussi pour apprendre à connaître l'autre pour la deuxième fois, la troisième fois, être moins choqué et être plus dans un accompagnement, une compréhension, voilà.
Vous savez, l'être humain, pour lui, c'est tout à fait naturel d'aller vers quelqu'un qui lui ressemble. Aller vers quelqu'un de différent, c'est culturel. Culturel au sens où il faut faire un effort, il faut apprendre à connaître, il faut, et on le remarque dans tout. Madame dit, par rapport aux animateurs, lorsqu'on est par exemple en situation de recrutement, il est tellement facile de se dire, je vais prendre quelqu'un qui me ressemble, qui vient du même milieu, etc. Vouloir prendre quelqu'un qui ne nous ressemble pas, c'est un risque. Est-ce qu'on est prêt à courir ce risque? On est d'autant plus prêt qu'on est formé à cela. Donc, c'est un apprentissage. Il faut se dire que quel que soit le métier que l'on fait ou qu'on aurait à faire, cet apprentissage, aller faire ce risque à prendre pour recruter, pour aider, pour accompagner quelqu'un de différent, ça va être la norme. C'est déjà la norme. Il faut juste qu'on le réalise.
Le repli sur soi, c'est finalement une forme de confort, en fait, vu ce que vous nous dites.
Un confort, probablement, c'est aussi une peur. C'est un non-apprentissage parce que vous disiez, vous accompagnez, Madame dit, on accompagne les jeunes à aller à l'extérieur, aller à l'étranger pour connaître d'autres cultures. Mais c'est une forme d'apprentissage et cette ouverture, elle se fait dès l'enfance. Comment, par exemple, si je suis, je ne sais pas, moi, dans un milieu UP, est-ce que je prendrais le risque, entre guillemets, de mettre mon enfant dans une maison de loisirs, d'animation qui n'est pas du même milieu que mon enfant, ne serait-ce que pour lui apprendre que les autres existent? C'est pas simplement le dire, c'est le mettre en situation pour qu'il apprenne à se comporter, à prendre en compte l'autre, etc. Je ne sais pas si on le fait. Il y a déjà des parents, par exemple, qui retirent leurs enfants d'école quand ils estiment que cette école les pose problème. Mais jusqu'où est-ce que ces parents sont prêts à faire des efforts, à rencontrer d'autres parents pour comprendre comment ils fonctionnent et faire ensemble que c'est difficile, mais c'est aussi un travail à faire.
Alors, l'intérêt, on va dire, on va y aller association par association, mais l'intérêt que vous voyez à aller vers l'autre, à connaître l'autre, pour quelque part valoriser nos différences dans la société, ça passe par quoi? On commence avec vous, Madame Hamard.
Ça commence par apprendre à mieux se connaître, donc je pense que c'est par la rencontre. Nos premières actions, c'était vraiment d'aller rencontrer des partenaires en Europe, d'aller rencontrer un peu leur réalité un peu socio-économique, comparer avec nos réalités socio-économiques. C'est oui, plus on se connaît, plus on a envie de se connaître et plus on a envie de faire des choses ensemble. Donc je pense que la rencontre, en tout cas, est très importante pour mieux vivre ensemble.
C'est ça le moyen pour parvenir à ce qu'on appelle aujourd'hui, avec des gros guillemets, le vivre ensemble?
Moi, le vivre ensemble me gêne un petit peu parce que c'est une formule qu'on utilise beaucoup, mais pour moi, elle me gêne, je la trouve pas très laïque. Parce que pour moi, il y a des relents, je dirais, religieux derrière le vivre ensemble. Je préfère le contrat social. Parce que quand vous parlez contrat social, vous êtes amené à aller voir ce que Rousseau a écrit, ce qu'il a... Vous voyez, c'est une question de citoyenneté. Le vivre ensemble, c'est juste « je veux bien ». C'est un peu comme la tolérance. Non, je préfère l'idée de contrat social à vivre ensemble. Comment on réinterroge le contrat social? Donc, dans le contrat, il y a deux personnes. Comment on contracte ensemble? Donc, qu'est-ce que je mets dans le contrat? Qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que je donne? J'aime beaucoup cette idée. Vous savez, aujourd'hui, on parle de la COP21, pardonnez-moi, on y est en plein. On est en plein sur le développement durable. Et toujours ces cultures, comment comprendre l'autre? Comment estimer que l'autre est un autre moi-même et que je ne me considère pas toujours comme étant supérieur et l'autre inférieur? Si on prend la COP21 aujourd'hui, qu'on analyse les cultures, on peut s'apercevoir, in fine, aujourd'hui, c'est le pygmée qui est le plus in pour le développement durable. Donc, c'est l'homme le plus moderne aujourd'hui, le pygmée. Mais voilà, moi, pour moi, quand on travaille sur l'interculturalité, ce sont ces images-là qui peuvent être choquantes pour les personnes qu'on a en face, mais c'est pour provoquer la réflexion.
Alors, je vais forcément me tourner vers la sociologue, mais quand on parle de médiation interculturelle, on place où la notion d'acculturation ?
Alors, l'acculturation, déjà le mot, c'est « a » et « culture », privé de culture. En fait, c'est se priver de culture pour endosser une autre culture, une acculturation pour une enculturation. C'est ce mouvement-là, il est important dans la démarche que l'on a à faire dans les relations qu'on a tous les jours et surtout quand on est professionnel. Et plus on est avec des publics en précarité, plus la formation des intervenants est importante et doit être pointue. Quand on prend des animateurs qui vont prendre des enfants en provenance de toutes les cultures, faire avec eux des actions interculturelles exige qu'elles soient pensées fortement en amont. Sinon, on peut avoir les résultats inverses à ce qu'on a voulu envisager au départ.
Pour rester dans l'actualité, vous avez parlé de COP21 tout à l'heure. Moi, je vais vous parler élections régionales. Nous sommes au lendemain du premier tour, avec une participation d'un peu moins de 50%. Est-ce que pour vous, la médiation interculturelle, ça peut aussi servir non seulement à se sentir mieux dans la société, mais aussi à participer plus activement à la vie citoyenne, comme par exemple en allant voter? Je ne sais pas qui veut répondre. On a un haussement de sourcils de Madame Hama.
Alors, c'est une bonne question. Je ne sais pas si je suis en mesure de pouvoir répondre, parce que ça appartient à chacun, je pense. Parce que au-delà de, enfin, voilà, le vote, c'est aussi un choix personnel.
Mais là, ce serait plutôt la question, ce serait vraiment plutôt partir sur la participation à la vie citoyenne. Alors, aller voter, ne pas aller voter en étant conscient politiquement, là, on peut rentrer dans un énorme débat, mais c'est vraiment la participation à la vie citoyenne.
Alors que oui, je pense qu'effectivement, mais on peut participer à la vie citoyenne de plusieurs façons. Le vote, effectivement, en fait partie. Voilà, enfin, malheureusement, pas de réponse, du coup. Moi, je dirais que oui, mais voilà. Sans...
Madame Delalande, peut-être
le vote, pour moi, c'est quelque chose de très important par rapport à la démocratie. Et c'est une forme d'engagement que d'aller voter pour préserver cette démocratie. Après, effectivement... Aujourd'hui, c'est aussi la problématique autour des pouvoirs politiques qui peut-être fait qu'il y a moins de personnes à être engagées, en particulier sur les jeunes, etc. On voit bien que les personnes qui ont milité pour le droit de vote, eux, ils se déplacent encore voter. Alors que les jeunes, les plus jeunes, on va dire, qui pour eux, c'est... Ça ne peut pas changer, les choses ne peuvent pas changer. Voilà, ils entendent le discours politique et ça peut ne pas leur donner envie d'aller voter, en tout cas. Ça je peux le comprendre.
Madame Ouattara.
Alors, pour moi, ça re-questionne l'interculturalité. Pour pouvoir aller voter, il y a besoin d'avoir une culture politique, d'avoir une culture économique, d'avoir une culture religieuse ou pas, une culture philosophique. Et c'est au croisement de tout cela que se forme le citoyen. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'interculturalité, ça n'est pas simplement entre deux cultures, c'est aussi dans les classes sociales et au sein d'une société.
Mais alors, justement, est-ce que vous participez quelque part à cette, on va dire, pas création, mais à inciter les gens ou à leur donner les clés pour se sentir, on va dire, citoyen actif de la société?
Alors, je vous disais tout à l'heure, nous, on reçoit des personnes de toutes nationalités. Donc, lorsqu'il y a des échéances électorales ici, nous présentons aux étrangers la société française, son fonctionnement, ses différentes collectivités, ses instances, sa respiration politique, et leur dire donc, voilà, comment se fonctionne le pays dans lequel vous vivez, et à partir de là, comment ces informations questionnent les pays dont vous venez. Parce que l'idée pour nous aussi, c'est que ces personnes qui viennent en France, qui pourraient peut-être demander à un moment de leur parcours la nationalité française, d'abord comprendre dans quelle société ils sont, mais aussi qu'ils soient citoyens des pays d'où ils viennent. Parce que on parle des migrations, on parle des gens qui quittent les pays, c'est aussi parce que ce sont des pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'organisation de la société de telle sorte que puisse émerger le citoyen. Avec les personnes qui viennent, ce travail que l'on fait très humblement à notre niveau, c'est pour faire émerger le citoyen de telle sorte que quand ils repartent en vacances, ils puissent un petit peu faire du travail dans les contrées qu'ils ont quittées, et principalement quand ce sont des contrées, je dirais, rurales, très peu fréquentées par les moyens de transport, etc. Donc ça, c'est un travail qu'on essaye de faire avec eux.
Eh ben, merci beaucoup à toutes les trois. C'est un très beau mot de la fin, en tout cas.
Merci à vous.
Tic-tac, tic, le temps avance. Et toc, 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 la mort veut entrer. Les éclairs commencent à tomber. Pendant ce temps, on compte la monnaie. Rendez-vous dans 100 ans. On verra bien ce que vaut l'argent. Planète bleue, on crache nos tonnes de diesel. Plus haut vers les cieux, s'érigent nos tours de Babel. Et dans la forêt, on avance au bulldozer. Et les grands glaciers reculent plus vite qu'un panzer. Peu importe, y a de la bouffe au supermarché. Qu'importe, on a notre soupe devant la télé. Tic-tac, tic, le temps avance. Et toc, 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 la mort peut entrer. Les éclairs commencent à tomber. Pendant ce temps, on compte la monnaie. Rendez-vous dans 100 ans, on verra bien ce que vaut l'argent. Catastrophe nucléaire, peu importe, y a de la bouffe au supermarché. Qu'importe, on a notre soupe devant la télé. Tic-tac, tic, le temps avance. Et toc, 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 la mort veut entrer. Les éclairs commencent à tomber. Pendant ce temps, on compte la monnaie. Rendez-vous dans 100 ans, on verra bien ce que vaut l'argent. Tic-tac, tic, le temps avance. Et toc, 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 la mort veut entrer. C'est toc toc toc, la mort veut entrer. Les éclairs commencent à tomber. Pendant ce temps, on compte la monnaie. Rendez-vous dans 100 ans, on verra bien ce que vaut l'argent. Tic toc tic toc.
Toujours dans le sous-marin sur les ondes de campus, à l'instant c'était Blue BO avec Rendez-vous dans 100 ans. Tout de suite, on parle des régionales avec le cabinet des curiosités d'Antoine.
19h, 20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers.
Alors mon cher Antoine, tu vas forcément revenir sur le premier tour des élections régionales en chiffres, en réactions et en subjectivité.
Comme à l'accoutumée, bonsoir, faisons court, faisons simple. En Pays de la Loire, notre si belle région avec la douceur, les Républicains sont arrivés en tête hier soir avec 33,7% des voix, suivi du Parti Socialiste avec 25,6% et le Front National avec 21,5%.
Ça fait mal de le dire. Hein.
J'ai l'impression d'avoir une coloscopie là. La participation est un peu plus de 50%, c'est quand même à noter. Sophie de Bringuy, la tête de liste ELV, arrive en quatrième position, a d'ailleurs déclaré à propos d'une fusion entre les socialistes et les verts, comme quoi le rouge et le vert, ça se marie bien ensemble, qu'on a l'habitude de travailler ensemble, on se connaît, on sait où sont les blocages et les avancées nécessaires. La victoire est possible. En fait, notre région est dans les habitudes nationales, habitudes qui ont été bien malmenées hier soir. Nous annoncions une vague bleu marine, nous avons eu droit à un ouragan qui est passé sur moi. Ouais, petite référence comme un ouragan.
Ouais, ouais merci. Un
ouragan qui a donc emporté la majorité des régions françaises. Comme à l'accoutumée, c'est malheureux de rigoler de ça, classé comme volonté de faire bouger les lignes politiques. Et là,
c'est le drame.
Les ténors de tous les partis vont de leurs petites phrases, souvent en carton bien mâché, un petit best-of pour la route.
Oh bah oui, avec plaisir.
Eh ben c'est parti, Virginie Camels des Républicains, je cite, « J'invite les électeurs du Front National à faire échec au Parti Socialiste. » Le PS de Nice, sur Twitter, à propos de Cambadélis, « Indigne, laisse-nous résister si tu en es incapable. » Et la meilleure ou la plus triste, signée Florian P, d'un parti en deux lettres, « Votez pour nous pour l'amour de la France. »
Oui, c'est sûr, un frontiste qui dit ça, ça fait mal.
Ouais, ça fait mal, j'ai l'impression d'avoir une deuxième coloscopie en simultané. Malgré tout, il reste encore deux niches d'euros sur l'Hexagone, avec d'abord l'Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, où Alain Rousset, le candidat PS sortant, récolte 31,8% des voix contre 26,8% pour la célèbre donc Virginie Camels, et 22,1% pour le Front National mené par Jacques Colombier. Chez nos voisins bretons, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, obtient 34,1% des voix et gagne donc une option sur la présidence du Conseil régional, Pierre-Louis.
Ouais, un ministre breton qui a quand même assez honte de son parti, puisque sur sa propre profession de foi, aucune allusion à une union de gauche, aucune allusion au Parti Socialiste, et évidemment, je vous le donne en mille, les couleurs de la profession de foi qui ne sont absolument pas blanches et roses comme traditionnellement, mais là, noir et jaune, y compris l'écharpe de Le Drian sur la photo, c'est quand même très très étrange.
Et c'est très étonnant également. Le candidat de la droite, Marc Le Fur, ne gagne que 23,4% et Gilles Pernel du FN 17,8%. Alors au total, en national, les listes du Front National ont obtenu 27,7% des suffrages exprimés, les Républicains, UDI, Modem 27,5% et le PS n'est pas si loin au final derrière malgré tout avec 23,5% des suffrages sur l'ensemble du pays. D'ailleurs, les Verts et ses alliés récoltent 6,8% et toutes les autres listes, dont celle du Front de Gauche, sont en dessous de 4%. Selon la radio France Inter, France 2 et l'Institut Ipsos.
Qu'est-ce qu'on retire de tout ça, Antoine ?
Eh bien d'abord, ce matin, en me réveillant à 7h, en branchant Radio Campus Angers, j'ai eu l'impression d'avoir une violente gueule de bois, mais à la place de l'alcool, une grosse claque dans le pif, comme une troisième coloscopie en simultané. Mais oui, les médias, ils prévoyaient une rafle d'extrême puanteur, mais bon, arriver à un résultat plus haut qu'en 2002, il fallait quand même le vouloir. Donc ce soir, là, à 19h49, j'ai quand même envie de me demander où sont tous les Charlie, où sont tous les résistants en terrasse, les amateurs de rock, les défenseurs de la démocratie. Je vous le rappelle, à tout hasard, que le parti qui est en tête nationalement est géré par des personnes qui, en Ile-de-France, déclarent que le sida n'existe pas, en PACA qu'il faille couper les vivres du planning familial, les députés européens de ce même parti qui clament haut et fort que le Parlement européen a voté une résolution scandaleuse sur Frontex visant à faciliter les plaintes pénales des migrants. Oui, n'oubliez pas, le migrant n'est pas humain, c'est bien connu, tout comme le sida qui est une invention du lobby judéo-homo-communiste et que le planning familial n'est qu'un crématorium à enfants. Alors, Charlie, rocker, buveur de bière, démocrate, républicain, citoyen, homme de gauche et de droite, démocrate, sortez-vous les doigts, ce n'est plus ces derniers qui vont sentir les trompes, mais votre pays. N'oubliez pas, le 19 août 1934, un certain Adolphe a pris les pouvoirs par les urnes. La seule chose que j'aurais à vous dire ce soir, c'est de ne pas reproduire cette erreur. Et comme dirait la douce Charline Vanhoenacker ce matin sur France Inter, un con qui vote aura toujours plus de poids que deux intellectuels qui s'abstiennent.
Merci beaucoup Antoine. Alors, il y a juste quelque chose qui m'étonne dans ton cabinet des curiosités, toi qui es si au fait de l'actualité, notamment des médias. Tu ne nous as même pas fait un petit mot sur l'Humanité et le Figaro qui ont le même titre ce matin, le choc. un titre qui d'ailleurs avait été utilisé par Libération en 84 à la suite des scores scandaleux, on peut dire ça comme ça, de Jean-Marie Le Pen. Non, tu as décidé de faire l'impasse.
J'ai fait l'impasse ce soir parce que j'estime que peut-être nos auditeurs ont déjà vu, c'est pas la peine de remettre de l'huile sur le feu. C'est vrai que c'est un choc, c'est assez dur et on verra comment ce sera dimanche prochain. Espérons que ce soit un peu moins puant que dimanche hier soir.
Joannick, toi, une réaction là-dessus, c'est pareil, c'est comme l'UMA, comme le Figaro, le choc.
Le choc, ouais, bah, si ça continue comme ça, il ne reste plus qu'à prendre un avion et puis peut-être se tirer, hein, parce que bon, c'est vrai que quand on voit ça, ça fait un peu flipper.
Attention, tu vas devenir un migrant. Hein.
Mais en même temps, on parle de choc, mais beaucoup de médias avaient quand même annoncé ça, donc c'est un choc, mais au final, attendu tout de même.
C'est un choc attendu d'une certaine manière. Je pense que la majorité voilà, des médias n'avait pas prévu ce tel raz-de-marée. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais bon, toujours est-il que bah, pour se remettre de nos émotions, moi, je vous propose une bulle sonore où on met à l'honneur le reggae. Et oui, nous, on est comme ça. Quand le Front National passe, on met le reggae à l'honneur. C'est évidemment l'excellente émission Bamboo Station de Joe.
Yes, 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 les mouettes. Vous êtes bien sur le Centre FM, c'est bien Radio Campus Angers, Bamboo Station, votre émission reggae tout lundi soir entre 11h et minuit qui débute. Donc au sommaire ce soir, c'est soirée spéciale Joe Pilgrim à l'occasion de la sortie de son dernier album Intuition, sorti vendredi dernier. Voilà, Joe Pilgrim and the Ligerians. Le groupe qui accompagne Randanton au départ à la base. Donc vite fait, un petit topo sur Joe Pilgrim, car j'ai plein de sons que je veux passer ce soir. Je me suis fait trop plaisir en préparant cette émission. Donc vite fait, voilà, il est né en France, de parents béninois, issu d'une famille nombreuse et a grandi dans la campagne de l'Est lyonnais. Et je vous raconterai la suite juste après. On va commencer d'abord tout de suite par un petit morceau. La première trace que j'ai trouvée musicale de lui, ça date de 2010. Voilà, c'est un EP 3 titres qui s'appelle N avec Dub Addict Present Pilate meets Joe Pilgrim. Le morceau que je vous ai choisi, c'est Crazy Democracy. Et ça va balancer sec. Crazy Democracy, Joe Pilgrim meets Pila, Dub Addict, yes!
Joe, que vous pouvez retrouver tous les lundis de 23h à minuit. Il est 19h54, bientôt 55, c'est déjà l'heure de se quitter.
Oh,
quelle tristesse, mais je te remercie quand même Antoine de ta participation et puis on te retrouve demain de toute façon, évidemment à la technique. Merci beaucoup Joannick d'avoir participé à cette émission et à l'interview, il faut le souligner, puisque tu as participé à l'interview d'Adeline Amar, de Dany Delalande et de Rachida Ouattara, qu'on remercie évidemment chaleureusement de nous avoir reçus, d'avoir répondu à nos questions. Et évidemment, un grand merci à Quentin qui était à la réalisation de cette émission et à Étienne, comme d'habitude, excellent à la programmation. On se retrouve demain, même heure, même fréquence, pour un nouveau sous-marin spécial Angers Mag.
19h-20h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Retrouvez le sous-marin en podcast sur le www.radiocampusangers.com.